Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
De ce qui suit maintenant. Nous allons ouvrir notre Bible. Si vous voulez bien suivre avec moi, j'ai une lecture à vous proposer. Dans le Nouveau Testament, dans la première épître à Timothée, au chapitre 4, nous allons considérer un texte sur lequel nous allons pouvoir donner quelques pensées. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent ou ils prescriront de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Est là la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Voilà que Dieu nous bénisse à travers cette parole que nous allons, essayer de réaliser, de comprendre. Vous avez remarqué le verset 11, c'est-à-dire la dernière lecture, enfin le dernier verset que nous avons lu, il est question que de ceci, déclare ces choses et enseigne-les. Paul conclut avec ces deux verbes, donc le verbe déclarer et le verbe enseigner. Déclarer, c'est annoncer en quelque sorte, c'est rendre clair. On déclare, on met à la connaissance quelque chose, proclamé. Et puis enseigner, c'est tout simplement expliquer et faire apprendre. Et je crois que le but de l'apôtre Paul auprès de Timothée, et puis certainement pour nous aujourd'hui, c'est justement, de pouvoir savoir, de pouvoir nous remémorer ce que Dieu nous a dit, et puis de pouvoir être enseigné et de le communiquer peut-être aux autres. Alors nous reprenons maintenant le premier verset, puisque ça c'était la conclusion de notre paragraphe. Il est dit ceci, « Mais l'Esprit dit expressément. » Il y a cette conjonction de coordination, mais, qui signale un avertissement. C'est qu'il y a bien quelque chose qui doit être porté à la connaissance du peuple de Dieu, hier comme aujourd'hui. En d'autres termes, ce petit mot « mais » est une transition, une opposition pour mieux comprendre ce que il nous est signalé dans le dernier verset du chapitre précédent. Et nous allons le lire. Dans le dernier verset, il est dit ceci à travers le verset 16 et sans contredit. Le mystère de la foi, de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Je crois qu'il est intéressant de bien comprendre la signification de cette coordination qui est donnée, c'est parce que justement c'est relié avec ce qui précède. Il nous est parlé de la glorification de Jésus, de l'œuvre extraordinaire, magnifique, incommensurable de Dieu, et c'est pourquoi en entrant dans ce chapitre nouveau, il est question de faire attention. En raison de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a été proclamé, annoncé de glorieux. Il est question dans ce dernier verset du chapitre 16, du chapitre 3, pardon, il est question du mystère de la foi. Il est question également de Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il est aussi rapporté qu'il a été justifié par l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit a rendu témoignage à Jésus en tant que Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Qu'il est admiré des anges, ou il a été admiré, il est encore admiré des anges. Il était annoncé à l'humanité entière. Il est glorifié dans les lieux célestes. C'est un vocabulaire, tout ça en l'espace d'un verset, c'est tout l'Évangile, c'est toute la Bible. Autour de la personne de Christ, c'est un vocabulaire qui évoque quelque chose de grand, d'universel et de sublime. C'est pourquoi, après avoir dit ça, Paul, parce que c'est sublime, parce que c'est grand, c'est incommensurable, il ajoute ceci, mais, et il y a une raison. Il y a une raison. Mais, ça veut dire, attention, prenez garde. Et la manière dont nous pouvons poursuivre la compréhension de ce texte, comment les hommes vont-ils faire usage de ce trésor de révélation en Jésus-Christ ? Admiré, glorifié, prêché au monde entier. Avec tout ce que nous avons lu dans ce dernier verset du chapitre 3, alors qu'est-ce que les hommes vont faire de cela ? Est-ce qu'ils vont le conserver pur ? L'histoire nous a appris que finalement, malgré que Dieu ait donné des perles aux hommes, on sait très bien que ça a été foulé aux pieds, bafoué, piétiné. Mais l'Esprit dit, c'est pas les hommes qui disent, c'est l'Esprit avec un grand E, vous avez eu expressément, comme dans l'Apocalypse, dans les premières lettres de l'Apocalypse, il est question de justement l'Esprit qui dit. L'Esprit dit expressément que, formellement, une information de mise en garde qui concerne les derniers temps. Sache que dans les derniers temps, l'Esprit, eh bien, prévient. Il est question, justement, de quelques-uns, et aujourd'hui, avec le recul que nous avons, nous pourrions dire certainement beaucoup. Quelques-uns, et il s'agit des chrétiens. Pas de ceux qui ne croient ni en Dieu, ni en rien. Mais il est question des chrétiens. Il est question de ceux qui abandonneront la foi, en d'autres termes, délaisseront, se tourneront ou tourneront le dos à Dieu et à sa révélation, ou tout simplement oublieront. Oublieront ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset sublime que nous avons lu. L'Évangile dans sa simplicité originale. Et nous avons, pour surenchérir cette pensée, eh bien cette parole que nous trouvons dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 11, je restitue tout simplement le texte, et chapitre 2 Corinthiens, pardon, où il est question, au chapitre 11 et au verset 3, je me suis trompé dans la formulation de la référence, il est dit ceci, « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. » Et ce n'est pas pour rien que ces choses nous sont rappelées. Cet évangile suffisant, tel qu'il nous a été donné, qui sauve les hommes, avec le temps, ne sera plus aussi attrayant, enfin, façon de parler, mais ne rencontrera pas ou ne rencontrera plus la même force dans l'esprit et le cœur des hommes. Et qui finalement, eh bien, ce qui fera dire encore dans 2 Timothée, parce qu'il va y avoir quelques versets bibliques pour suivre un petit peu notre réflexion, mais il est dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Et je crois que, autour du christianisme premier, qu'est-ce qu'on a pu raconter et qu'est-ce qu'on a pu dire? et qui a entraîné, non pas quelques-uns, mais des millions et des millions d'hommes dans l'erreur et dans toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'Évangile. Alors, nous nous apercevons que pourquoi cette parole nous est-elle donnée aujourd'hui ? Et elle demeure. Parce qu'il nous est dit que, dans ce texte, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Et qui veut dire s'attacher, veut dire aussi donc se détacher, puisqu'ils sont chrétiens, puisqu'ils ont fait une expérience. On se détache pour s'attacher à autre chose. Donc il y a là, quelque part, une forme de reniement. Rompre avec un lien précédent et se mettre en dépendance d'autre chose, ou d'une autre doctrine. Aller vers un autre Dieu. Alors, quelle est la valeur et la nature de ces choses dont Paul nous parle ? Sont-elles bonnes ? Sont-elles justes ? Et sont-elles saintes ? Toute la question est là. Mais l'apôtre Paul s'empresse de dire « Quelques-uns se détourneront pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Voilà. L'apôtre Paul n'attend pas trop longtemps pour nous dire ce qu'il en est de cette affaire. Il ne va pas faire tout un lagus pour nous dire « Eh bien voilà, il y a ceci, il y a cela. » Mais il rentre directement dans le vif pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, de nature spirituelle. Ce n'est pas une chose charnelle dont il est question. Et Paul ne met pas contre le péché le plus charnel qui soit, mais contre des séductions, des puissances de séduction dans le monde, de nature spirituelle. Il est question d'esprit et de démons. En arrière-plan, le mensonge, puisqu'il y a là, eh bien, une puissance captive, est particulièrement ciblée sur la pensée et le raisonnement, puisque la pensée et le raisonnement est entretenu par des doctrines, une doctrine de démons, c'est-à-dire un enseignement, avec un corps d'enseignement qui font qu'il y a là toutes sortes de choses qui captivent le raisonnement, la pensée, qui structure l'homme dans l'erreur, en dehors de la vérité, bien le conduit vers l'erreur. On sait très bien que tout ça, nous avons été mis en garde dès le départ dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça se retrouve et ça continue encore aujourd'hui. Alors, par qui et comment est véhiculé le poison ? Le verset 2 dans notre texte, si nous suivons le cheminement de ce que Paul nous dit, eh bien c'est par l'hypocrisie de faux docteurs. Doctrine, docteur. Bonne doctrine, et là il est question de mauvaise doctrine et de faux docteurs. Les démons n'ont de pouvoir qu'auprès de ceux finalement qui leur cèdent. Et c'est pour ça que nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. À partir du moment où nous tenons ferme dans la vérité qui nous a été donnée, dans l'héritage que nous avons, eh bien nous n'avons rien à craindre. Mais faut-il que cette parole soit écrite, parce que tout le monde ne pense pas comme ça. Et qu'il y a parfois des faibles, et qu'il y a parfois aussi des gens qui cèdent à toutes sortes d'appels, toutes sortes de sollicitations, toutes sortes d'inclinaisons, et qui se détachent de Christ pour s'attacher à des doctrines de démons et à toutes sortes de choses de cette manière. Leur technique d'approche est d'utiliser des agents du genre humain. Je parle des puissances spirituelles. Des agents humains fourbes, d'où le mot hypocrite, par l'hypocrisie de faux docteurs. Or, pour tromper leurs semblables trop crédules, instables ou insatisfaits, le danger dans nos églises va véritablement être porté sur ceux qui sont trop crédules. Nous avons besoin d'être crédules à la vérité de Dieu. Nous avons besoin, crédules encore, c'est un mot que je dirais, nous avons besoin d'avoir la foi dans la vérité qui nous a été révélée. Mais il y a dans le peuple de Dieu des frères et des sœurs qui sont crédules, qui sont instables aussi. Ça, c'est un danger pour les instables, ceux qui papillotent de droite et de gauche, qui vont de droite et de gauche. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont tomber dans les pièges. Ça, c'est clair. Et puis, les insatisfaits, ceux qui se plaignent toujours en disant « mais ça va jamais, c'est pas bien, ceci, cela ». Alors voilà trois catégories de gens qui sont exposés à tomber entre les mains des puissances de séduction, des démons, et de se fourvoyer dans des fausses doctrines. D'abord, la crédulité, l'instabilité et l'insatisfaction. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il nous est donné en quelque sorte là un reflet de cette situation. Quand il nous est dit ceci au chapitre 11, donc verset 13, il est dit ceci, verset 13 que je retrouve. En ce qui concerne ces gens qui ont le pouvoir de séduire, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et l'apôtre ajoutera, mais ce n'est pas étonnant puisque leur maître et leur inspirateur se déguisent en anges de lumière. Donc voilà un petit peu la stratégie qui est dévoilée. Toute cette stratégie consiste à endormir la méfiance des hommes, et qui plus est là, les enfants de Dieu naturellement, par le biais d'une proposition à une dimension supérieure de spiritualité. Nous ne sommes pas assez spirituels, il faut l'être encore davantage. Alors quand c'est le Seigneur qui nous le dit, il n'y a pas de problème. Mais faisons attention à ce genre de discours. Faire douter de la suffisance divine. Est-ce que vous croyez que ce que vous entendez, ce que vous vivez aujourd'hui est suffisant pour plaire à Dieu? Forcer les convictions jusqu'au déraisonnable. Et il y a quelquefois des comportements dans le monde chrétien et peut-être même dans les églises évangéliques et pentecôtistes où là nous ne sommes plus, mais plus du tout dans la note. C'est un contre-témoignage qui est rendu à la face du monde. Et ce sont quelquefois des comportements, des façons de faire qui sont là, eh bien, je dirais même, exécrés. Et l'homme de bon sens et de sagesse va comprendre tout de suite. Mais puisqu'il faut aller dans ce sens, alors on y va. Et quelquefois, on a vu des gens qui étaient très raisonnables. Raisonnables dans le sens où on peut le comprendre sur le plan spirituel. Et puis là, perdre complètement la raison, partir dans toutes sortes d'excentricités, toutes sortes de choses, des abus. Alors, incroyable. Cependant, nous dit l'apôtre Paul, en ce qui concerne ces faux ouvriers, eh bien, ces agents, dociles entre les mains de ces esprits séducteurs, l'apôtre Paul nous dit qu'ils se reconnaissent quand même, je reprends le texte, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc ça se voit. Je rappelle quelque chose que nous avons souvent dit, c'est que la vérité de la foi se juge aux fruits et non pas aux œuvres. Et ça, il faut que le peuple de Dieu le comprenne une fois pour toutes. On est prêt à sauter sur tout ce qui bouge, frères et sœurs. Mais là, il faut faire attention, parce que nous pouvons sauter sur des mines. Et le diable ne fera dans sa stratégie guerrière contre le peuple de Dieu que de mettre des mines, de mettre des bombes un petit peu de tous les côtés pour que nous puissions, eh bien là, être hors course. Donc, la vérité se juge aux fruits et non aux œuvres. La conscience étant avant tout morale, et c'est là-dessus que nous devons nous fier, plus une doctrine paraît séduisante, promettant monts et merveilles, comme on en entend parler aujourd'hui et comme on va en entendre parler encore plus que jamais, plus elle doit être examinée de près. Et oui, Dieu nous demande d'être remplis de perspicacité et de jugement, et de pouvoir examiner toute chose. Jugez de tout, nous dit la parole de Dieu. Examinez toute chose. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Or, le faux se trahira toujours tôt ou tard. Il a sa marque ou il a ses marques d'origine. Et la marque de reconnaissance que Paul, eh bien, met devant nous dans le critère de reconnaissance, c'est la flétrissure. Vous savez ce que c'est qu'une flétrissure? Flétrissure morale. Une flétrissure sur le plan naturel, peut-être sur le plan physique, quand une fleur ou des fleurs sont flétries. Flétrissure, parce que l'authenticité a disparu, parce que la fraîcheur a disparu, parce que maintenant, eh bien, ça ne présente qu'un visage de l'artificiel, du tape à l'œil. Il y a une autre traduction qui dit ceci. Ils ont une conscience, non pas flétrie, mais cautérisée. La cautérisation, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire brûlée au fer rouge, afin d'être reconnue comme les criminels auxquels on appliquait une marque pour qu'ils soient reconnus de tout le monde. Dans l'ancien monde, eh bien, quand il y avait des criminels, on les marquait au fer rouge, d'une manière ou d'une autre, d'une manière visible. Leur vie morale était flétrie parce que c'était des criminels. Et on leur donnait une estampille et on savait que c'était un criminel parce que là, ils ne pouvaient pas l'enlever, hein, ça. Parce qu'on lui avait marqué cette estampille. Et il est question d'une conscience cautérisée, c'est-à-dire qu'elle est marquée pour être reconnue. et l'homme spirituel saura toujours le reconnaître. Plus dissimulés, ces faux prédicateurs, toujours agents et porteurs de fausses doctrines, portent en eux le sceau discernable pour tous ceux qui sont perspicaces sur le plan spirituel, la marque indubitable du mensonge et de la condamnation. Vous savez, comme Paul écrit, il n'y va pas à... il n'y va pas, comme on dit, avec peu de choses. Il dit les choses et c'est des mots qui sont très très forts. Et il avait raison, parce que on était à cette époque où l'évangile venait juste d'apparaître dans le monde. Et déjà, il y avait des mouches qui venaient, eh bien, infecter le parfumeur. Et toutes sortes de gens, des judaïsants, des excentriques, des légalistes à outrance, des libéraux à outrance, venaient s'amalgamer autour de l'évangile et commençaient à pénétrer dans, à y mettre un levain de malice et un levain de méchanceté, un levain de mensonge. Et ça, c'est le travail du diable. Alors, sur quoi repose l'argumentation mensongère et quels sont les mobiles de ceux qui se laissent prendre au piège? Nous allons d'abord parler des mobiles. Il y a une citation qui nous est donnée dans l'évangile de Jean. Il est dit ceci: « Celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire l'homme spirituel, se garde lui-même et le malin ne touche pas. » Frères et sœurs, si nous sommes trop crédules, si nous sommes instables et insatisfaits, faisons très, très, très attention dans les temps dans lesquels nous sommes et dans les temps dans lesquels nous allons rentrer. Et une chose qui est certaine, c'est que si nous avons la démangeaison de gratter de droite et de gauche, eh bien nous serons les premières victimes et les premiers à tomber dans le piège. Or, le diable sait pertinemment que les hommes penchent par nature, à cause de la curiosité, à rechercher leur propre justice, à adorer Dieu d'une manière charnelle, à accomplir par leurs efforts la sanctification et leur salut. Ça, c'est tout l'évangile qui, enfin, toutes les épîtres qui nous disent ça. À rechercher toujours une plus grande mesure de la vie de l'esprit. À rechercher toujours de plus en plus de dons et de puissance. Alors, on dit amen à tout ça. Parce que je pense qu'il n'y a rien, finalement, de contradictoire. Mais là où nous sommes piégés, c'est quand nous sortons des sentiers dans lesquels le Seigneur nous a conduits. Et le diable voudra toujours à un moment d'une autre nous faire sortir du jardin d'Éden, comme il l'a réussi une première fois, un premier coup. Et nous sommes finalement dans un chemin qui, il nous est rappelé qu'il est étroit et périlleux. Alors, c'est vrai que nous cherchons à la sanctification, que nous cherchons une plus grande mesure de l'esprit, que nous cherchons à avoir les dons et de la puissance, mais je ne vous dirai pas le contraire. Mais attention, faisons attention, parce que si c'est Dieu qui nous y conduit, alors moi je dis amen et d'accord. Mais si c'est notre chair qui nous inspire à tout cela, ça sera plus Dieu qui va nous précéder. Ça sera nous qui allons le réaliser. Et je peux même vous dire que nous allons l'obtenir. Mais nous allons obtenir aussi les conséquences de cette recherche en dehors de Dieu. Alors, sachant cette faiblesse, l'ennemi déploie son arsenal de fausses doctrines et de séductions en tout genre. Cette armada, si je peux m'exprimer ainsi, tend à ramener par des œuvres à faire ou des œuvres à ne pas faire ce qui est esprit et vérité au niveau du charnel ou du psychisme, que l'on tiendra pour être vraiment du spirituel. Et le grand danger que nous avons aujourd'hui à affronter, c'est de bien discerner entre ce qui est psychique et ce qui est spirituel. Le psychisme, je le rappelle, fait partie de la dimension de l'âme de l'homme, du religieux, de cette aspiration, eh bien peut-être là vers quelque chose qui nous élève. Mais si c'est nous qui le fabriquons, les résultats sont des résultats charnels et qui ne nous permettront jamais de rentrer dans la dimension de Dieu et que Dieu agrée. Ça peut avoir l'apparence, ça pourra avoir peut-être les mêmes formes, mais ça ne sera pas ça. Attention au psychisme, c'est très dangereux. Et souvent, nous avons vu des frères ou des sœurs se méprendre complètement et penser que ce qui était psychique était pour eux du spirituel. Et ça ne l'était pas, naturellement. Cette manœuvre subtile exerce sa domination sur la conscience des hommes par des pratiques. Et là, j'y arrive parce que c'est un peu le corps de notre méditation. Des pratiques. Je vous rappelle au passage que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Et c'est bien là justement toute la différence qu'il faut reconnaître. Par des pratiques qui donnent une apparence de sainteté, de sagesse et de modération. Mais très vite, cela devient une tyrannie, une dictature, et pour ceux qui y parviennent, un temps, eh bien, ça devient un sujet d'orgueil spirituel. Et c'est là où le diable veut prendre au piège les enfants de Dieu. Je répète. Certaines pratiques chrétiennes, certaines pratiques évangéliques, certaines pratiques que nous avons même dans nos églises, ne viennent pas du Seigneur. Ce sont des choses que nous avons inventées. C'est des choses que nous avons mises en place pour donner un ersasme de sainteté, de sagesse, en disant qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'elle est spirituelle. Alors que finalement, il n'y a rien de spirituel. C'est du charnel, c'est du psychique, et ça en met plein la vie aux autres. Mais ce n'est pas ça, et pas ça du tout. Et quand on voit peut-être évoluer ce genre de, finalement, de, entre guillemets, de développement spirituel, on dit, ben voilà, mais formidable, cet homme ou cette femme est un exemple. Quand on s'aperçoit que, quelque part, il y a une pleine suffisance et d'orgueil spirituel. Eh bien, c'est ce que nous dit Colossiens. Et dans Colossiens, il nous est dit ceci au chapitre D, au verset 23, parce que tout ça, ça a été vu par l'apôtre Paul. Et nous avons besoin de nous le remettre dans nos cœurs, en tête. Au chapitre 2 et au verset 23, il est question de cette parole. Illusion. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, parce que ça touche beaucoup le corps, ça. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, c'est-à-dire l'orgueil spirituel. C'est Paul qui le dit. Il le dit aux Colossiens. Nous avons quelques exemples dans notre texte. Au verset 3, il est dit ceci. Ils prescriront, ou ils prescrivent, de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Deux domaines, celui de la vie intime, soit le mariage, qui est proscrit, et celui de l'alimentation, comme si l'abstinence de ce qui touche au corps était l'antidote imparable à la contamination spirituelle. Vous savez que Paul a eu maille à partir avec les Corinthiens. Mais les Corinthiens, c'était un autre genre. Il se disait, avec mon corps, je peux faire tout ce que je veux. Je suis libéré. Et alors, je peux vous dire qu'il y a des histoires qui ne sont pas... Vous connaissez Corinthiens. Alors, ils allaient vers un libéralisme outrancier. Et ils pouvaient se dire, eh bien, c'est pour ça que Paul leur dit, mais vous donnez avec une prostituée. Vous faites des choses. Hein, vous mélangez tout. Mais quand on voit, par exemple, les Galates ou d'autres, eux, c'était le contraire. C'était un ascétisme. C'était un rigorisme pas possible, à tel point qu'on disait surtout ne touchez pas une femme, ne vous mariez pas, c'est terrible. Bah, remarquez, le monde serait déjà arrêté depuis longtemps. Et c'est ce que Paul est en train de dire. D'autres diront, comme on le retrouve encore dans certaines doctrines, hein, vous savez le célibat dans certaines doctrines, et puis les prescriptions alimentaires dans certaines autres, même quelquefois des évangéliques, surtout ne mangez pas de ceci, ne mangez pas de cela. Et Paul le savait. Et il voulait lutter contre cette idée fausse, cette doctrine de démon, parce que c'est vraiment une doctrine de démon, en disant, bien voilà, si vous vous abstenez de ceci, si vous abstenez de ça, oh ben vous savez, vous êtes saint. Tiens. La sainteté, c'est pas ça, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas pour ça qu'il faut se voter dans le péché. C'est pas pour ça que la liberté que nous avons en Christ nous amène à faire n'importe quoi et à toucher n'importe quoi. Mais, attention. Parce que là, nous tombons dans une aberration qui fait que les gens qui se donnent à ceci pensent qu'ils sont supérieurs aux autres et qu'ils pensent que finalement, eh bien là, ils plaisent au Seigneur. Eh bien, on va voir. On va voir ce qu'il en est, parce que la parole y répond. C'est une aberration. Et toujours dans 2 Colossiens, dans le même texte, il nous est dit au verset 21, cette parole. 6, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ et au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et il est bien question, ils ne sont pas pernicieux, mais ils sont pernicieux par l'abus. On est bien d'accord. Pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Et derrière ces doctrines des hommes, il y a des doctrines de démons. C'est clair. Doctrine de démons. Notre christianisme est mal en point. Dans toute son histoire, mais aujourd'hui, on revient à certaines choses. Et nous voyons que, or, pour un bon équilibre des hommes et de la vie, et même pour le plaisir de la vie et le bonheur de la vie, parce que Dieu a voulu que les hommes soient heureux, avec des choses qu'il a données, qu'il a faites, alors à ce moment-là, Dieu recommande le contraire. Mariez-vous et mangez. Alors tout est une question de sobriété et toute une question d'équilibre. Dieu recommande le contraire. L'exemple du mariage, dans 1 Corinthiens chapitre 7, et je vous fais remarquer, c'est un célibataire qui écrit ça. C'est Paul. Donc c'est pour vous dire qu'il n'était pas très étroit. Hein. Lui, il était célibataire, mais il pouvait enseigner, et il pouvait dire qu'on se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous connaissez le texte? Tout le monde l'a lu au moins une fois. Dans Hébreux, en ce qui concerne toujours le mariage, il est dit que le mariage soit honoré, que nous devons le tenir en estime comme un don et une grâce formidable que Dieu ait donné. Après, c'est à nous, à chacun, marié, de savoir gérer notre affaire. Ça, c'était notre affaire. Mais bon, le Seigneur peut nous donner la sagesse et puis ce qu'il faut. En tous les cas, l'amour nécessaire. Donc que le mariage soit honoré de tous. Un peu plus loin, il est en ce qui concerne les aliments, puisque ce sont les deux points de doctrine qui, là, sont mis en évidence. Il est dit « Mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir par motif de conscience. » Alors bien sûr, il faut le remettre dans un contexte particulier, c'était Corinthe. Mais néanmoins, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, quand on veut vivre comme les Juifs, ou quand on veut vivre comme certaines doctrines, qui sont pseudo-chrétiennes, je dis bien pseudo, alors que finalement Dieu nous appelle à vivre normalement. Alors si vous avez des aliments qui font mal au foie, vous vous abstenez, parce que c'est une question d'hygiène et de santé. Mais si vous avez des aliments qui font mal à votre foie, alors vous saurez ce qu'il faut faire à ce moment-là. La déviation se trouvait dans la persuasion qu'impose à la conscience les doctrines et les esprits de séduction qui font croire qu'en faisant ceci ou en s'abstenant de cela, l'homme sera plus saint, plus proche de Dieu, davantage béni. Eh bien, mes frères, vous pourrez relire toutes les belles histoires de la Bible où il y a eu des choses et que Dieu n'a jamais lâché la corde, finalement, pour suivre certains hommes. Et pourtant, imaginez-vous Jacob, par exemple. Parce que quand Dieu nous a appelés, il sait ce que nous sommes. Et quand on veut faire notre propre salut et notre propre sanctification, il est dit, qui fait l'ange, fait la bête. Ouais, c'est un proverbe qui est dit. Et je crois qu'il faut rester à notre place. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas à nous de faire notre sanctification. Il est dit de travailler notre sanctification. Nous collaborons dans la mesure où nous laissons Dieu, eh bien là, par son Saint-Esprit, nous conduire et nous diriger. Mais on a fait toutes sortes de choses pour essayer de dire aux gens et les amener dans une illusion de dire, eh bien, si vous faites ceci, si vous ne faites pas cela, vous serez plus saint, plus proche de Dieu. Vous serez béni encore et encore davantage. Il est totalement faux que de croire que le péché a son siège uniquement dans la chair. Ouais. Parce que le péché, il a son siège dans le cœur, dans la volonté, dans la pensée. Dixit Jésus, Marc chapitre 7. Et on comprend que c'est pas parce qu'on va se laver les mains, qu'on va faire des ablutions, qu'on va faire toutes sortes de choses que Jésus reprochait aux pharisiens, que finalement c'est ça la sainteté. Parce que les pharisiens en avaient un paquet de toutes sortes de pratiques. Jésus leur dit, mais vous êtes une bande d'hypocrites, vous vous rendez compte? Vous voyez pas que finalement, c'est pas parce que vous allez vous laver les mains que vous serez plus saint pour ça. passer un esprit pour l'hygiène avant de se mettre à table et au moins de se laver les mains, mais c'est pas ça ce que Jésus voulait dire. Et alors d'en conclure que la sainteté doit consister à mortifier son corps. Oh, il y a des choses, c'est certainement qu'il faut retenir. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça, parce que là, on va tomber dans l'ascétisme, dans le mysticisme et l'illuminisme. Et pour y parvenir, il faut se faire des lois et des ordonnances arbitraires qui sont le plus souvent à l'opposé de la volonté de Dieu et le plus triste, de les imposer à autrui comme condition absolue pour plaire à Dieu. Vous savez, hein, Dieu nous considère comme des adultes. Quelquefois, les pasteurs considèrent leur église comme non-adultes. Eh bien, c'est bien dommage. Parce que quand on entend la parole de Dieu et quand elle est annoncée, chacun doit savoir régler sa vie en fonction de ce qu'il entend et de ce qu'il croit. Et ce n'est pas parce que je vais m'évertuer à prendre les gens et puis leur dire « c'est comme ça que vous devez marcher » et puis « attention, hein, j'ai un regard sur vous et puis je vous suis. » Vous savez, si le cœur n'y est pas, ça servira à rien. On a vu des gens qui ont été tenus quelquefois très étroitement le jour où ils ont pu s'affranchir. Ben, je peux vous dire qu'ils concoctaient et qu'ils espéraient peut-être des temps de libération et de liberté. Le jour où ils ont pu partir, ils sont partis. Faut faire des gens des majeurs. Faut faire des enfants de Dieu des hommes mûrs et faits en Jésus-Christ par l'enseignement de la parole et par les entraîner à une vie de communion avec Dieu. Alors surtout qu'on érige cela en doctrine. Et c'est ce que Jésus dira à ses contemporains, les hommes religieux de son temps. Vous avez changé les commandements de Dieu en commandements d'hommes. Et ça donnait l'illusion qu'ils étaient le nec plus ultra de la nation. Pourtant, l'enseignement de la parole de Dieu est clair. Écoutez. Au verset 3, il est dit, ils prescriront de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et on poursuit un peu parce que il est dit parce que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, rien. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Oublier et mépriser ces principes de vie, et ce sont des principes de vie naturels, hein. Manger, boire, vivre tout simplement. Revient à faire injure au Créateur qui les a créés pour que l'homme en fasse dans un légitime usage et dans la reconnaissance de celui qui les donne généreusement. Bénissons le Seigneur quand il nous donne à manger tous les jours. Sans chercher, savoir si c'est du lard ou du boudin. Excusez-moi. Chacun fait ce qu'il veut. Bénissons le Seigneur d'avoir un compagnon ou une compagne qui est notre mari ou notre femme, au lieu de se chamailler. Bénissons le Seigneur de nous donner tout ce qu'il nous donne. Et parce qu'à partir du moment où je commence à maugréer, mais je fais injure à celui qui m'a donné tout ça, de dire ce que tu m'as donné, Seigneur, c'est pas bon. Mais qui suis-je pour dire que ce n'est pas bon? C'est peut-être moi qui ne vois pas que c'est bon et qui dit que c'est mauvais. Le verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La parole de Dieu sanctifie parce qu'elle nous met dans le vrai, elle nous dit que c'est bien. Et nous rappelle que tout ce que nous sommes et avons a été créé par cette parole même. Je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien? Toute la question est là. Par la connaissance qu'elle me donne, cette parole de Dieu, je sais que rien ne m'est dû et que tout est grâce. Tout revient sur ce fondement de la grâce. Par la prière, parce que celle-ci sanctifie les dons de Dieu, qui fait qu'à chaque chose bonne de la vie, et il y en a quand même, hein, on va dire que tout est mauvais, chaque repas est une occasion de le remercier. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ceci, merci pour cela. Même dans les choses les plus intimes de la vie, de savoir remercier le Seigneur. Parce que c'est lui qui les a créées. En conséquence, l'ascétisme est une folie, frères et sœurs. Ouais. C'est un mal qui ronge les églises. L'ascétisme est une folie. Les piétés restrictives inventées par les hommes sont aussi une autre folie. Les abstinences forcées sont une forme de mysticisme dangereux qui n'ajoute aucune supériorité à notre spiritualité et qui sont même une offense à Dieu qui nous prive de la foi et de la gratitude que nous lui devons. À partir du moment où je m'enferme dans une doctrine dite de démon et qui m'amène finalement à regarder comme méprisable ce que Dieu a fait et que la parole de Dieu me dit qu'elle est bonne, et que moi, à chaque fois que je consomme quelque chose que tu as fait pour moi et que je le remercie, alors à ce moment-là, je suis vraiment un ingrat, pas possible. Et tout ça parce qu'il y a une doctrine derrière qui préside dans mon esprit. C'est pour ça qu'il est dit à un moment donné, je crains que vous soyez éloignés de la simplicité à l'égard de Christ. Et je peux vous dire que les religions étaient vraiment des spécialistes pour inventer tout et n'importe quoi pour nous détourner de Dieu. Tout ce qui tend à voler à Dieu l'adoration qui lui revient n'est que doctrine de démon. Satan, le grand usurpateur, nous vole l'adoration et tente de nous voler à travers toutes sortes d'illusions, eh bien l'adoration qui revient à Dieu. Devons-nous taire maintenant cette vérité si criante? Ça peut être gênant, hein, de prêcher comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. Parce que Dieu m'a demandé de prêcher. Comme Paul a eu la conduite d'écrire ces choses. Devons-nous taire la vérité, pourtant si criante, parce qu'elle est devant nous, nous l'avons. Le verset 6 nous dit ceci, en exposant ces choses aux frères, et ce que les prédicateurs devraient faire, au lieu de raconter n'importe quoi et de prendre des choses qui sont secondaires, on prêche sur des choses, mais qui n'ont rien à voir, sur des questions vestimentaires, sur des questions de ceci et cela. Il y a une règle, la décence et le respect des autres. Ça, on est d'accord. Mais à partir du moment où vous faites toutes sortes de discours sur ceci, sur cela, quelquefois, il y a des cultes entiers où on est là positionné sur quelque chose, mais qui est secondaire. Et on dit, ben voilà, vous devez être comme ça parce que vous serez plus saint, vous serez ceci et cela. Mais qu'est-ce qu'on perd notre temps? On ferait mieux d'annoncer Jésus glorifié, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, et comme on l'a dit dernièrement, Jésus transfiguré, au lieu de perdre notre temps à des choses qui sont, mais alors vraiment, à côté. Alors, il est dit ceci, en exposant ces choses aux frères, tu seras un beau ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. On ne peut ne pas parler quand on sait que le danger est bien réel, qu'il s'agit d'âmes sincères qui risquent l'égarement éternel. Mais pourquoi? Pour le plaisir des faux docteurs, des faux prédicateurs et de ceux qui enseignent des choses qu'il ne faudrait pas enseigner. Voilà. Pour leur plaisir personnel. Le seul moyen de les ramener au bon sens pour ceux qui s'égarent est encore de nourrir leur foi de la parole de Dieu et de ne pas détourner cette parole. Une parole de Dieu qui reste équilibrée et de mettre celle-ci en pratique dans la vie de tous les jours ordinaires. C'est pour ça qu'au verset 7, dans notre texte, il est dit « Mais repousse les contes profanes et absurdes. » Et il y a des choses qui sont érigées en doctrine de sainteté qui sont profanes et absurdes. Je suis désolé de le dire, mais quand même. « Repousse les contes profanes de vieilles femmes » dans ma traduction. Qu'est-ce que c'est, vous? C'est pareil? Non, qu'est-ce que c'est? Alors, il n'y a pas que les vieilles femmes. Hein. Dites-moi un petit peu. Les contes de vieilles femmes, profanes de vieilles femmes. Refuse, rejette comme ces commandements charnels, faux critères de sanctification et regarde-les comme le produit de l'imagination humaine, car de toute évidence, jamais on ne peut établir de foi solide sur un fondement fabuleux. Parce qu'il est question de fable. Fabuleux. En disant, voilà, si tu fais ceci, tu fais cela, bien tu verras, tu vas être béni, tu vas être ceci et cela. Servir la cause de l'évangile, c'est aussi combattre les superstitions. Et il y a encore beaucoup de superstitions dans le peuple de Dieu. Nourri par des craintes et des peurs. Nourri par toutes sortes de choses. Mais ça, c'est pas le fondement de la foi, parce que la foi nous affranchit et nous donne une véritable liberté en Christ. Mais combien d'enfants de Dieu s'est encore courbé comme la femme, là, vous savez, qui était penchée depuis 18 ans et qui ne pouvait aucunement se relever parce qu'elles ont été courbées par des doctrines, par le peur de ceci, peur de cela, etc., etc. Eh bien, ça en fait des chrétiens malheureux des chrétiens non épanouis, des chrétiens qui ne sont jamais capables de porter le témoignage, un témoignage de joie et un témoignage de vie autour d'eux. Et quand les gens du monde les voient vivre, ils se disent « Ah ben si c'est ça le christianisme, eh bien moi, vous savez, ça ne m'intéresse pas. » On devrait être rempli de dynamisme et rempli de joie avec le sourire toujours sur le visage, même quand ça va pas. Regardez l'apôtre Paul et Silas qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui étaient capables de chanter des cantiques, même dans une épreuve terrible. Vous savez, le diable, lui, a tout intérêt à nous courber et à nous mettre sous des joutes extérieures et des joues surtout intérieures pour nous amener à rendre un témoignage d'une grande tristesse. Eh bien, le christianisme, c'est tout à fait le contraire. Soyez heureux et joyeux et montrez-le autour de vous. Mais si à l'intérieur, il y a des courbures, il y a toutes sortes de barrières, toutes sortes de structures qui vous ont, là, eh bien, complètement penché, alors automatiquement, ben, les gens ne vont pas avoir envie de vous écouter. Ça, c'est clair. Pas faire ceci. Ne goûte pas, ne touche pas, ne respire pas. Ben, respirez au bord de la mer. Hein. C'est le moment. Hein. Mais c'est vrai. Écoutez, on est sorti d'une religion qui s'appelait le catholicisme. Moi, j'en ai pas connu grand-chose. Hein. Mais quand même, on nous a tellement conditionnés et courbés, il faut pas retrouver les choses maintenant dans l'évangile. Alors moi, je n'accepte pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Maintenant, chacun vit comme il veut, après tout. Mais écoutez, on est sorti d'un carcan où Dieu nous a retirés avec toutes sortes de problèmes de conscience, où il nous a fallu des années pour nous en libérer, même si on n'y avait pas touché beaucoup. Hein. On va quand même pas recommencer. Là, nous sommes sortis. Vous savez que il est dit que celui qui veut satisfaire la loi est déchu de la grâce. Eh bien, maintenant, c'est sous la grâce que nous vivons. C'est pas pour ça que ça nous autorise à faire n'importe quoi, mais au moins vivez et vivons. Donc, nous avons besoin, comme Paul le dit à Timothée, de combattre les superstitions en tout genre, imaginaires, fantasmes, et tous les méandres de l'âme, du psychisme, qui sortent du cadre saint de l'enseignement biblique. Ce conseil de Paul est approprié à la question quand il dit ceci, « C'est à cause de vous, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Et on a fait quelquefois des textes bibliques, on en a rajouté, et on a rendu ceux qui les écoutaient des esclaves. Esclaves non pas du Seigneur, mais esclaves des hommes, et d'une doctrine, d'un mouvement, et de tout ce que vous voulez. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, il est dit ceci, « Voire même pour les plus téméraires, et ceux qui forcent la signification de la parole de Dieu, quand Pierre nous dit cette parole au chapitre 3, verset 16, où il est question de cette parole de Dieu, où il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. » Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait dire à la parole de Dieu qu'elle n'a jamais dit? Il faut donc prendre le contre-pied comme pour échapper à une aspiration puissante. Et il est dit, exerce-toi à la piété, exerce-toi à la foi libératrice, à ce qui véritablement, eh bien, va te donner de l'oxygène à ta vie. Et Quen, traducteur de la Bible, du Nouveau Testament, dira ceci, exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à une conduite qui correspond à ta foi et non pas des choses forcées. La contemplation mystique fige et engourdit l'esprit. Oui, mes frères et sœurs. Oui. Autrement, il faut aller dans un monastère au Tibet. Là, vous aurez votre compte. Mais la foi chrétienne, c'est une libération, un affranchissement. Et je dis bien que la contemplation mystique, si je me tiens 24 heures sur 24 à voir où sont les anges, un jour je vais les voir, hein, ça c'est clair. Mais est-ce que ce sera des anges de Dieu ou ce sera des anges déguisés, des anges de ténèbres déguisés en lumière? Parce que quand on en veut, on en veut. Et vous savez, à un moment donné, ça arrive. La contemplation mystique, c'est la troisième fois que je le dis, fige et engourdit l'esprit. Par contre, cette même contemplation mystique excite l'activité désordonnée du corps et de l'âme, parce qu'elle comprime tellement le corps qu'à un moment donné, à force de faire des efforts, ça explose. C'est comme une bouteille de champagne que vous secouez bien, vous allez voir le bouchon comment il va faire. Et on a vu des drames dans nos églises, des gens qui passaient pour être des saints, qui passaient pour être véritablement des gens spirituels. À force d'être comprimés, le jour où ils ont tout balancé par-dessus bord, ils y ont été dans le péché. Parce que si c'est fait par l'esprit, ce sont vraiment des gens spirituels. Mais si c'est fait par la chair et les contraintes de la chair, je peux vous dire qu'on ne retient rien à ce moment-là. Et nous pleurons encore sur certains frères et certaines sœurs qui ont été tout simplement tenus en laisse, dans toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de lois, mais le cœur n'y était pas. Ils le faisaient en fonction de tout leur environnement, du pasteur et de toutes sortes de choses. Pour s'en défaire, il faut s'entretenir dans les fruits de la grâce, comme Paul le dit, les fruits de la grâce dans l'homme intérieur, cette communion d'esprit avec Dieu. Et vous savez que nous sommes appelés à vivre notre foi en esprit, en vérité, et non pas avec toutes sortes de contraintes que nous mettons, ce sont des béquilles, c'est de l'orthopédie, ça. Vous savez ce que c'est que de l'orthopédie? Ouais. C'est quelque chose qui est à côté de nous. Orthopédie, ça vient de deux mots. Ortho, enfant, immaturité, pédie, marcher. Faire marcher droit, si vous voulez. Alors, à partir du moment où le peuple de Dieu marchera toujours avec des béquilles, il sera pas libre. Tout simplement. Et il faut que nous apprenions à vivre dans l'équilibre et que nous vivions une vie spirituelle qui soit saine et sainte. Mais selon la parole de Dieu dans l'esprit. À l'opposé, tout ce qui tend à porter notre attention au dehors, c'est-à-dire vers l'extérieur. Faire bien attention à notre corps et à notre âme. C'est-à-dire nous portera vers le physique et le psychique, doit être tenu à l'écart. C'est notre vie intérieure qui doit prédominer sur le reste. Si je dis, je dois me contraindre de ceci et cela. Mais si notre vie intérieure est suffisamment forte, si l'Esprit de Dieu domine mon esprit dominera mon âme, et mon âme dominera mon corps. Alors à ce moment-là, je serai victorieux. Mais si nous commençons par l'inverse, je peux vous donner les résultats. C'est du psychisme, c'est de l'ascétisme, c'est du mysticisme, c'est de l'illuminisme, mais c'est l'homme qui fait, et Dieu ne peut rien faire, puisque c'est l'homme qui prend la place de Dieu. À cet effet, Paul dit, dans un sens peu commun, que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il ne parle pas ici de sport ou de discipline destinée à la forme physique, mais d'action ou d'activité visible, sensuelle, comme la gestuelle religieuse. Vous savez qu'on y va ou on y revient. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui font que, pour manifester notre foi, il faut faire toutes sortes de gestuelles. Enfin, on a eu droit, quand on était dans une certaine église, à la gestuelle, comme quoi c'était, ceci et cela. Mais on y revient même dans nos églises évangéliques. Moi, j'ai été témoin, quelquefois, de certaines gestuelles, soi-disant spirituelles, qui finalement n'avaient rien à voir avec la foi. J'ai vu des gens prier complètement à plat ventre. Enfin bon, toutes sortes de choses. Alors que vous priez debout, vous priez à genoux, ça vous regarde. Mais ne faites pas de cela quelque chose qui va vous dire que vous êtes plus saint, parce que vous faites ceci et vous faites cela. Et surtout de critiquer ceux qui ne le font pas. C'est surtout ça. Parce que là, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et tout cela constitué de services et de cérémonies extérieures en recherche à plaire à Dieu. Tandis que la piété, la foi spirituelle, est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. Celui qui aime et qui connaît Christ marche avec Dieu dans la vérité. Il est une nouvelle créature. Et toute sa vie est régie par l'esprit de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc, c'est un homme qui est né de nouveau par et dans l'esprit, produisant des fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance, et puis tous ceux qui pourraient y avoir encore. C'est ça le fruit, c'est pas les œuvres, c'est pas les choses extérieures. Ce que Dieu veut voir dans chacune de nos vies pour voir si nous sommes en forme spirituellement, c'est de savoir si nous avons des fruits. Mais le reste, les génuflexions et tout ce que nous faisons, les mortifications, les abstinences, etc., etc., mais ça c'est secondaire pour le Seigneur. Cette foi-là prouve la santé à notre âme et à son corps, procure la santé, à son âme et à son corps, dont le résultat, nous assure l'avenir pour nous et pour les autres. Sa foi est une joie à cet homme-là. Sa foi est une force, et en aucun cas, c'est une servitude et une contrainte. Vous savez, on entend parler beaucoup de monde évangélique en ce moment, Il y a des émissions pratiquement tous les jours. Quelquefois, on n'est pas très à l'aise. Enfin, je vous le dis. Il y a peut-être des bonnes choses qui passent, mais à côté de ça, c'est pas toujours à l'honneur de l'Évangile. On ne remet pas en cause la démarche de fond, mais les formes, je peux vous dire que Alors bien sûr qu'il y a des incrédules, il y a des critiqueurs et tout ça. Bon, on va les laisser de côté, ces gens-là. Hein. Mais il faut dire que quelquefois, on a fait une démonstration. On va pas entraîner les gens derrière nous. Parce que quand il est parlé de toutes sortes de comportements, toutes sortes de manières d'être autour de l'Évangile, eh bien, je pense que c'est pas ça ce qui va finalement, eh bien, amener les gens à s'épanouir, hein, dans un sens ou dans un autre. Hein. On nous montre des églises ultra-libérales et on nous montre des églises ultra-fondamentalistes et conservatrices. Alors, quand les gens regardent dans un sens ou dans un autre, ils se disent, et vous avez remarqué qu'on ne parle pratiquement jamais des églises qui vivent équilibrées. C'est bien dommage. Mais ça, c'est encore une affaire de l'adversaire. Dieu est le Dieu de la vie. Il est aussi le Dieu de la liberté. Et Christ vous a affranchi. Non pas pour que nous nous remettions sous un joug de servitude, mais que nous puissions véritablement vivre notre vie et notre témoignage chrétien. Pour conclure, le verset 9 et 10. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que je reste toujours dans le contexte de ce que Paul enseigne, hein. Toujours la même trajectoire. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant et non pas dans une doctrine de ceci et cela. Le Dieu vivant, c'est pas un Dieu mort, qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Une parole certaine et digne. Nous comprenons par là, c'est une parole qui est vraie. Et une parole sans honte, et nous n'avons pas honte, de la parole de libération que Dieu nous a donnée dans les fruits de la grâce. Y aurait-il autre vérité que celle voulue de Dieu qui rend à l'homme sa dignité et glorifie pleinement le Seigneur ? Parole certaine et digne. Et je termine par cette citation de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 verset 1er. Offrez vos corps. Commence par là. Le côté le plus terrestre de notre humanité, nos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu n'est pas contre la raison. Il est contre le ridicule et les excès. Culte raisonnable. Et autre anticipation ou autre, disons, autre version, quand il est dit cela, c'est là un culte nouveau, pas le culte des anciens, c'est avec le ritualisme, avec le formalisme, le traditionalisme, c'est là un culte nouveau qui a un sens, un culte logique, et pas selon la logique du raisonnement humain, la logique du raisonnement de Dieu dans l'esprit, conforme à ce que la raison nous demande. Et la raison qui doit prévaloir dans nos vies, c'est pas notre raison à nous, c'est pas une raison religieuse, c'est pas une raison mystique ou tout ce que vous voudrez, ou ultra-libérale, c'est la raison du Saint-Esprit qui parle suffisamment fort à nos consciences et à nos cœurs pour nous montrer ce qu'il y a à faire et de vivre d'une manière spirituelle et d'être des hommes et des femmes spirituels qui glorifient le Seigneur. Que Dieu nous donne sa grâce et sa bénédiction. Amen. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole est claire quand tu nous dis que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs. Il y aura, Seigneur, des hommes qui viendront avec ta parole, c'est vrai, mais qui, Seigneur, viendront avec des retranchements ou avec des rajouts et qui, finalement, eh bien, s'écarteront de la vérité révélée, s'écarteront, Seigneur, de la conduite du Saint-Esprit, de l'éclairage que donne l'Esprit, Seigneur, à la pensée de Dieu, pour amener les hommes, Seigneur, soit à une liberté, Seigneur, outrancière, ou à travers, Seigneur, un ascétisme, Seigneur, en effet, qui va captiver les hommes, et qui va les amener tantôt d'un côté ou tantôt d'un autre, eh bien, Seigneur, à un esclavage et un asservissement. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'apparaît des versets en lettres de feu dans ta parole que c'est Christ qui nous a affranchis. Que c'est Christ qui nous a affranchis pour la liberté et que nous avons à veiller, Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, Seigneur, à ne pas nous remettre sous un joug de servitude. en pensant qu'en faisant ceci ou en faisant cela, en pensant, Seigneur, qu'en nous astreignant de ceci ou cela, alors à ce moment-là, nous allons certainement être plus près de Dieu. Seigneur, ta parole nous dit que tu nous as attirés à toi, que tu nous as mis près de toi, que nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et que la seule chose que tu nous demandes, c'est de toujours être confiant en ta grâce, de vivre dans la grâce, de nous imprégner de ta grâce, et de pouvoir obéir à la voix du Saint-Esprit, et non pas tant à la voix des hommes et de leur doctrine. Nous savons, Seigneur, que le grand profiteur de tout cela, malgré la sincérité, parce que nous ne mettons pas en doute la sincérité de certains et de certaines, eh bien, c'est que cela ne fait pas l'affaire de Dieu, mais fait l'affaire des puissances mauvaises, attachées à des doctrines qui sont de fausses doctrines, des pseudo-doctrines, mais qui, eh bien, Seigneur, au lieu de rendre les hommes heureux, les amène, Seigneur, à être toujours en train de se culpabiliser à tort, ou tout simplement de s'introspecter pour savoir s'il fait bon, s'il fait bien ou s'il fait mal. Alors que, Seigneur, tu nous demandes d'être tout simplement à vivre sous ton regard, et ainsi, Seigneur, de vivre notre liberté, surtout dans des choses secondaires, telles que toutes ces affaires qui appartiennent à la dimension, Seigneur, eh bien de la vie naturelle, la vie de tous les jours. Parce qu'à ce moment-là, tu nous rappelles ce matin que si nous boudons, si nous négligeons, si nous critiquons les bonnes choses que tu nous as données, c'est injure que nous te faisons, puisque tu nous les as données pour notre bien et notre épanouissement, et notre vie tout simplement. Merci notre Dieu, merci Jésus-Christ. Amen. Amen.